Bonjour, c'est Juliana. Bienvenue à l'émission Wake Up Call, une émission chez Canal B 94 MHz avec moi, ce matin et mes invités. Parce que ce matin, j'ai deux invités gourmands. On va prendre d'ailleurs un petit déjeuner ensemble avec Olivier et Rémi. Rémi de Amapopote et Olivier qui est producteur bio. On va vous expliquer ça tout à l'heure. On va parler également de l'élection de représentants de locataires HLM, de la semaine de la solidarité internationale, du futur site internet de Rennes Métropole et Rennes.fr, de la journée mondiale de la philosophie, c'est aujourd'hui, et un bout de l'agenda de week-end. Alors voilà, on va commencer avec mes invités, donc Rémi et Olivier, qui sont venus pour Olivier de Parthenay de Bretagne. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous, bonjour.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Donc Rémi de l'association Amapopote, qui on va parler dans un instant, mais Olivier, donc qui est alors installé là-bas depuis environ 2007, hein, je dis pas de bêtises,
ouais.
Qui propose du pain certifié AB, donc du pain bio. D'ailleurs, il est producteur du blé bio, du jus de pomme, 100% jus de pomme qui pasteurisé à 80 degrés se garde durant 12 ans. Mais une fois ouvert, il faut consommer 3 jours et le laisser dans le frigo. Et aussi, depuis cet été, il propose des petits fruits rouges qui sont également certifiés. C'est bien ça, je n'ai pas dit de bêtises.
Non, c'est ça.
D'accord. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tout à l'heure, on va tout simplement goûter les produits. Et oui, Olivier, il m'a ramené du pain, du jus de pomme et je vais pouvoir vous dire si c'est bon ou pas. C'est cool ça. Et puis Rémi, donc, de l'association Amapopote, qui est une AMAP. Lui, il est dans le conseil d'administration. Il y a environ d'ailleurs 12 personnes dans ce conseil d'administration. Puis il est secrétaire aussi de l'association. Et il m'a raconté que dans cet assaut-là, tout le monde est président.
Oui, c'est ça, c'est un fonctionnement un peu particulier. On a une présidence collégiale, c'est-à-dire que toutes les... Il n'y a pas quelqu'un qui a un poste privilégié par rapport aux autres. Ça s'est fait comme ça à la création de l'association. C'était une réunion finalement de consommateurs qui avaient envie de s'engager sur un mode de consommation un petit peu différent, alternatif. Et ces gens-là se sont rencontrés autour d'une même envie. Il n'y avait pas forcément quelqu'un qui était à l'initiative. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette présidence collégiale qui est restée. Nous, on fait partie actuellement du deuxième bureau. On a gardé ce même fonctionnement qui nous paraît particulièrement intéressant et adapté au fonctionnement de la MAP.
D'accord. Donc, au-delà de ton travail dans l'association Amapopote, tu es également éco-conseiller. Est-ce que tu peux me dire un mot sur cette profession, sur ce que tu fais?
Bien sûr. En deux mots, l'éco-conseiller est une personne qui a vocation à conseiller des entreprises, des collectivités locales, des associations sur toutes les thématiques du développement durable. Voilà.
D'accord, on va revenir sur toi dans un instant, enfin sur toi, je l'entends, hein.
Ouais,
sur ton témoignage dans un instant. On va continuer un petit peu avec Olivier. Qu'est-ce que tu m'as ramené ce matin, Olivier?
Eh bien écoute, pour un petit déjeuner, ça tombe bien parce que je produis du pain, du jus de pomme qu'on peut consommer aussi le matin. Et puis j'ai ramené un pot de confiture qui est pas, j'ai triché un peu, c'est pas le mien. J'ai pas gardé de fraises pour faire de confiture, j'ai pas eu le temps. Mais c'est un producteur local, c'est quelqu'un d'assez près du frais.
D'accord. Et sans tarder, dis-moi un petit peu, pourquoi tu fais ça?
Alors, j'y suis venu donc il y a 3 ans. J'étais pas issu du milieu agricole, comme on dit familièrement. Je me suis retrouvé dans une situation un petit peu après les études, qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Moi, j'ai fait des études d'histoire. J'avais étudié les saints irlandais en Bretagne, rien à voir. Et puis voilà, quoi, on se trouve à un moment, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire, qu'est-ce qu'on essaie de donner au monde. Et puis, par le hasard des rencontres, j'ai trouvé des anciens collègues de fac, notamment un qui était parti vers l'agriculture bio. Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai décidé de creuser un petit peu la question et puis je suis tombé dedans, plutôt amoureux de la chose. Puis j'avais peut-être un besoin après des études un peu virtuelle, perdue dans la bibliothèque de Rennes-Ville-Jean, au milieu de livres qui me paraissaient un petit peu morts. J'ai trouvé du goût et du plaisir à m'intéresser à la terre, aux plantes, aux animaux, quoi.
Formidable, super. Alors, je vais me tourner vers toi, Rémi, pour te demander un petit peu, parce que je suis allée voir quand même le site de ma popote, hein. C'est un peu comme ça que j'ai découvert la map et que j'ai découvert aussi le travail d'Olivier. Dans ce site, alors, il y a plusieurs choses. Il y a des chiffres qui sont annoncés. Donc, on dit que la map 98 adhérents avec des contrats. Donc, 68 kilos de pain, 35 litres de jus de pomme, 18 kilos de farine, 80 paniers de légumes, 75 demi-douzaines d'œufs. Ça représente quoi? C'est quoi? C'est l'année? C'est la saison? C'est le mois? C'est quoi?
C'est la semaine. C'est exactement ce qui est distribué chaque semaine. Donc, la map, on peut peut-être juste rappeler la définition. Association pour le maintien de l'agriculture paysanne a vocation à rassembler à la fois des consommateurs et des producteurs locaux. Donc au sein d'Amapopote, on travaille avec trois agriculteurs, donc Olivier qui est paysan boulanger, si on peut dire ça comme ça, Olivier?
Oui, c'est le titre non officiel.
Un maraîcher et un éleveur qui nous amène tous les 15 jours des œufs. Donc c'est les œufs, la distribution se fait une semaine sur deux, les autres produits sont distribués toutes les semaines. Et donc, il y a une centaine d'adhérents, comme vous le disiez, et donc certains qui adhèrent pour venir chercher du pain, d'autres du pain et des légumes, d'autres du pain, des légumes, des œufs. Enfin, chacun adhère, signe un contrat avec l'agriculteur ou le producteur qui l'intéresse. Le principe général de la MAP, c'est qu'il y a un engagement du consommateur sur la durée. Et ça, c'est un énorme avantage pour le producteur parce que ça lui permet d'avoir de la lisibilité. C'est-à-dire qu'en début de saison, on appelle ça des saisons, ça dure environ 6 mois chez nous. Le consommateur s'engage à dire, je viens toutes les semaines acheter 1 kilo de pain à Olivier et je paye la totalité de ce que je vais lui acheter en début de saison.
D'accord.
Donc pour lui, c'est une sécurité énorme. Ça lui permet d'abord d'avoir une vision très claire de ce qui va se passer pour lui sur son exploitation et dans sa production. Mmh. Donc c'est à la fois rassurant. Et pour le consommateur, ça permet de contribuer à développer l'économie locale, à travailler avec des producteurs qui s'engagent dans une démarche agriculture biologique et qui sont, pour le cas, nos trois producteurs sont certifiés, et d'avoir finalement un comportement de consommateur responsable. On utilise souvent le terme de consommateur et c'est à juste titre.
D'accord, donc on est là dans une démarche de développement durable. Hein,
complètement, on est dans une démarche de développement durable. On a cette notion de préservation de l'environnement, agriculture biologique, de diminuer les transports, les intermédiaires, de développer une activité économique et celle des producteurs, de leur permettre de vivre de leur production à un prix qui est le juste prix finalement.
D'accord. Donc j'allais te poser la question sur le contrat, mais elle est déjà à moitié répondue puisque tu m'as expliqué que le consommateur, il passe un contrat en fait avec le producteur via la MAP, donc via ma popote.
C'est exactement ça finalement. L'association est là pour mettre en relation le consommateur avec le producteur. Et on s'engage, on dit voilà, on signe un contrat sur 6 mois en disant je vais venir toutes les semaines pour récupérer les produits pour lesquels j'ai adhéré et pour lesquels je m'engage, quoi, voilà.
D'accord. Bon, je sens que pour goûter le jus de pomme d'Olivier, il va falloir que je fasse des pieds et des mains parce que je regarde toujours cette bouteille fermée. Je meurs d'envie de goûter ça. Le pain est déjà coupé. Bon, évidemment, on va passer un morceau de musique comme ça, on va pouvoir mâcher tout ça. Dégustez ça tranquillement et je vais pouvoir vous raconter. Regardez. Ouh, il est mis sur un verre. C'est formidable tout ça. Mais dis-moi juste une chose avant qu'on se quitte. Alors, Olivier, tu me disais que la MAP, il y a 3 AMAP pour qui tu travailles à 50% de ta production, c'est bien ça?
Ouais, c'est à peu près ça aujourd'hui, ouais.
D'accord.
Donc, dans mon système, il faut à peu près 200 kilos de pain par semaine pour que je puisse en vivre correctement. Et donc, j'ai cherché, quand j'ai démarré, à distribuer plutôt dans des associations pour tous les intérêts qu'a annoncé Rémi, mais aussi, moi, l'important, c'était de ne pas revenir d'un marché avec des invendus. Parce que je travaille tout à la main, je fais pousser le blé, je le vois pousser pendant 9 mois. Pour moi, c'était un crève-cœur de le mettre au compost une fois retour de marché. Donc, j'ai plutôt cherché ce type de distribution où les gens s'engagent un minimum, au moins passe-commande, quoi. Donc, dans tous mes circuits de distribution, les gens passe-commande, mais il y a que la moitié qui sont formellement en AMAP, c'est-à-dire où les gens s'engagent avec un contrat, etc.
tu n'as jamais te retrouvé dans la situation où tu ne pouvais pas honorer le contrat pour une raison peut-être de température, je sais pas, de climat et autres?
Alors, ça m'est arrivé la première année, ouais, j'ai raté une fournée parce qu'en fait, le plus compliqué quand on travaille avec des techniques anciennes de fabrication du pain, c'est, pour moi, ça n'a pas été la maîtrise de la pâte à pain, mais ça a été la maîtrise de la chauffe du four à bois. Et donc, la première année que j'en faisais un tout petit peu, j'ai raté complètement une fournée. Heureusement, je délivrais à un groupe d'étudiants qui ont très bien compris et qui ont passé l'éponge sur cette fois-là.
Très cool. Donc maintenant, je crois qu'ils maîtrisent parfaitement le pain. Je vais goûter le pain. On revient dans peu de temps. Je vais vous raconter tout ça, comment ça s'est passé. Mais à mon avis, ça va être bon. C'était Broke My Bones, c'est le groupe Anne Pierlet et White Velvet. Voilà, donc le monde bouge. Et vous? Non, ce n'est pas un slogan d'agence de voyage, il s'agit de la semaine de solidarité internationale. Chaque année depuis 1998, le grand rendez-vous de sensibilisation à la solidarité et au développement durable se déroule un peu partout en France. Cette année, ça se déroule donc bien au-delà d'une semaine parce qu'il y a plein d'associations investies dans cette manifestation. Alors, je retrouve des dates à Londres du 13 au 21 novembre et puis du 16 au 26 novembre et même du 15 au 28 novembre. J'étais un peu perdue là-dedans, mais sachez en tout cas que les renseignements sur la semaine de la solidarité internationale se trouvent sur le site de la Maison internationale de Rennes et aussi sur www.lasemaine.org. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire durant cette semaine? Eh bien, on peut par exemple participer aux rencontres citoyennes, au forum jeunesse, assister aux concerts, spectacles, projections, flâner au marché du monde. C'est pas mal. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, du 15 au 19, il y a l'apéro sans alcool. C'est pas très drôle. Et dégustation à la Maison internationale de Rennes. Donc, tous les jours à 18h30 avec des thématiques différentes. Ça change donc tous les jours. Ce soir, à partir de 18h30, dans les locaux de langue et communication, au 35 rue Sainte-Hélène, des étudiants invitent à la découverte d'écrivains. Alors, un peu de partout. Hein. Il y a des Vietnamiens, des Chinois, des Japonais, des Chiliens, d'Afghans. C'est donc des lectures en plusieurs langues et un débat à la fin sur les nuances et les particularités des traductions d'une langue à l'autre. Ils vont pouvoir témoigner un peu de leur propre expérience parce que ce sont des étudiants qui apprennent le français. Eh bien, là, on va continuer avec Olivier et Rémi. Et moi, je suis aux anges parce que j'ai mangé un pain. C'était trop bon. Vraiment. Je ne dis pas ça parce qu'il était là. J'ai goûté. Il est super son pain. Et puis, il y a la confiture aussi. Mais la confiture, elle vient d'où, cette confiture?
Ouais, alors la confiture, je l'ai troquée. J'ai pas le droit de le dire, peut-être. Je l'ai troqué contre un pain à la fête des confitures dans la chapelle des Fougerets. Et donc, c'est le collègue Patrick Champigny à la Tuberie, RC Prix en Liffré, qui fait des excellentes confitures.
Formidable. Et le jus de pomme aussi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je voudrais comprendre, s'il te plaît, parce que j'ai lu, je ne sais pas trop où, hein, mais j'ai lu un truc sur toi. J'ai vu qu'on ne peut pas acheter le jus de pomme comme on veut. Là. Il y a une fabrication d'une semaine à l'autre.
Ben oui, oui. Le principe dans les AMAP, c'est d'acheter la production de l'agriculteur, mais uniquement la production de l'agriculteur. Donc, on est, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une relation commerciale. Et par conséquent, mais on partage les aléas climatiques, quoi. Ça peut arriver sur le maraîcher qui, sur une culture, il a eu un souci. Donc, cette année, il n'y aura pas, ou pendant 3 ou 4 mois, il n'y aura pas de salade de telle variété, par exemple. Et dans mon cas, ça a failli se produire cet été avec les petits fruits où on a eu un printemps très, très sec. J'ai failli pas pouvoir honorer mon contrat en termes de fraises. Et puis, mais les adhérents de l'association ont pris ça à leur compte, j'allais dire, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de partager les pertes liées à la production, quoi. On est vraiment dans un partenariat très très approfondi où on partage un espace commun qui est notre territoire. Et puis lorsque des choses comme ça arrivent, on peut pas, tout n'est pas à la charge du producteur. Par exemple, j'étais ce matin chez un collègue producteur de lait. Il faut savoir que les collègues en lait, ils ont beaucoup souffert de la sécheresse aussi cet été, et donc ils ont beaucoup moins de fourrage pour leurs animaux, pour les vaches. Et donc, pour eux, les laiteries ne font aucun geste, par exemple, quoi. C'est, débrouillez-vous tout seul. Vous êtes agriculteur, vous supporter entièrement les risques de telle chose. Donc, il y en a certains qui ont perdu jusqu'à 70% de leur fourrage. Ce sont des fourrages qu'ils doivent acheter à l'extérieur. Donc, ça leur fait un coût supplémentaire sur l'année. Et donc, des revenus qui sont déjà pas très, très hauts, qui vont chuter. Or, voilà, quoi. Les AMAP, dès le départ, dans la charte, ont posé la question, est-ce que c'est uniquement à l'agriculteur de supporter le poids d'un tel coût climatique, quoi.
Ok, et oui, effectivement, donc il y a de la solidarité, il y a de la compréhension, parce Exactement. Qu'il y a un vrai soutien, quoi. Il y a de la réflexion, les gens ils peuvent participer aussi à la réalité, quoi, de la production alimentaire, je suppose. Je vais te poser la question là-dessus, Rémi, mais avant, je voulais comprendre un petit peu la fabrication de ce pain, là, qui est plus que traditionnel. Tu peux m'expliquer comment ça se passe ?
Ouais, bah c'est une fabrication très très ancienne en fait, où on part uniquement avec du levain. Alors le levain, c'est quoi? C'est un morceau de pâte que je ne cuis pas, que je garde d'une fois sur l'autre. Et ce levain, il est réactivé la veille de la fabrication. Il est tout simplement avec de l'eau tiédie et puis de la farine. Et puis en fait, on développe des ferments, essentiellement des ferments lactiques, pour ensuite faire lever la pâte, quoi, hein, pour donner un pain et donc pour faciliter la digestion. Alors on est sur des levains naturels, c'est-à-dire que dans ce levain il y a plus d'une centaine de bactéries, levures, ferments différents. Je ferai pas de comparaison méchante, j'allais dire, mais dans une levure de boulanger, il n'y a qu'un seul type de levure, quoi, qui fait partie d'ailleurs des levains naturels, on en trouve, mais à de l'ordre de 15%. Et cette levure-là, donc, elle est cultivée en in situ, quoi, chez des industriels, pour être diffusée après chez les boulangers qui l'utilisent. Dans un levain, il y a une richesse beaucoup plus grande qui permet en fait une assimilation bien meilleure à la fois des protéines et de l'amidon du blé. Ouais. Et donc, à partir de ce levain, ensuite, il y a une fermentation qui est longue, qui est de l'ordre de 6 heures. Et puis, un façonnage entre les deux, et en différents types de pain, forme et poids du pain. Et puis, cette pâte, elle est enfournée, donc, pour ma part, dans un four traditionnel. Alors, les fours traditionnels, il y en a pas mal encore autour de Rennes, dans la région nantaise, beaucoup. Hein, c'est des fours en briques qu'on voit dans les campagnes, qui sont souvent une forme un petit peu en œuf, quoi, un petit peu allongée. Certains sont isolés, d'autres sont à l'intérieur d'un fournil. Ça fait partie du patrimoine rural aussi en Bretagne, qui est intéressant à préserver. Et donc, ce sont des fours que l'on chauffe pendant 2 heures avec, avec du bois, et dans lequel on cuit le pain après pendant 1 heure. Alors, sur la chauffe du four, c'est vrai qu'on appelle ça une chaleur indirecte, parce qu'une fois que le four est chaud, on enlève toute la braise, on nettoie bien avec un linge humide, et puis on met le pain. Et donc, ce sont les briques, la chaleur accumulée dans les briques, qui restituent leur chaleur pour le pain pendant 1 heure.
Waouh, c'est très impressionnant. Mais est-ce que ça te fait te réveiller à l'aube vraiment très tôt, ou tu peux quand même livrer ton pain un peu plus tard dans la matinée?
Non, alors c'est peut-être une des raisons pour travailler en AMAP aussi. Heureusement, les AMAP viennent chercher les AMAPiens, comme on les appelle. C'est pas un nom que je trouve très, très joli à l'oreille, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Donc les adhérents des AMAP viennent chercher souvent le pain en soirée, quoi. On est complètement à l'opposé d'une distribution sur les marchés, qui est plutôt traditionnellement sur les matins. Et par conséquent, moi, je démarre le matin à 6 heures pour faire des livraisons le soir, entre 18 et 20 heures généralement, quoi. Donc ça va, c'est pas, je vais pas me lever trop tôt.
C'est pas trop barbare. D'accord, écoute, je vais poser une question à Rémi. En attendant, tu veux bien me servir un petit peu plus de jus de pomme? Lopin, je vais manger entre les morceaux de musique, parce que, enfin, faut pas trop non plus. Hein. Alors Rémi, je voulais savoir, puisque on a parlé de cette convergence, hein, les personnes, ils sont très attentifs. Enfin, il y a vraiment un terrain d'entente entre les producteurs et les consommateurs. C'est ce qui favorise donc le travail de la MAP. Oui. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des gens, des curieux qui vont par exemple à Parthenay ou ailleurs chez d'autres producteurs? Comment ça se passe?
Oui, bien sûr, c'est même, ça fait même partie du fonctionnement de la MAP. Hein. C'est vraiment une dimension qui est intrinsèque, c'est-à-dire que chaque adhérent s'engage à participer à la vie de l'association. Alors, participer à plusieurs niveaux, à minima au moment des distributions, parce que les distributions se font une fois par semaine, pour notre cas c'est le mardi soir, et on a besoin de donner un petit coup de main aux producteurs pour déballer leurs produits, les présenter sur les tables, aider les gens fabriquer leur panier. Et également chez les producteurs, alors de temps en temps il y a besoin d'un petit coup de main. Très récemment on s'est retrouvé chez Olivier pour ramasser les pommes, pour fabriquer le fameux jus de pomme qu'on est en train d'exister. Il arrive également d'aller chez notre maraîcher Jean-Baptiste Galerme pour ramasser des patates ou toute autre chose, l'aider à bricoler, à réparer un peu ses serres quand il a besoin. Enfin voilà, en fonction des besoins, il y a un engagement dans le contrat consigne. Finalement, on s'engage, chaque consommateur s'engage à aussi donner un petit peu de son temps, un petit peu de son énergie quand il le peut, pour donner un coup de main au producteur. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de voir comment ils travaillent leur terre, comment Olivier fabrique le pain. C'est toujours très intéressant. Puis ça finit toujours par un petit goûter que feu de bois, donc c'est quand même relativement simple. sympa.
D'accord, mais est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont vraiment un emploi de temps assez chargé, qui n'arrivent pas à vraiment trouver beaucoup de temps pour venir voir comment ça se passe chez le producteur, ce sont des personnes qui ne peuvent pas s'engager dans un contrat avec la MAP?
Non, alors c'est pas rédhibitoire, bien sûr. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs niveaux d'implication des adhérents. C'est pas toujours très simple au niveau du conseil d'administration. On essaye d'avoir une vision de tout ça, mais c'est pas toujours très évident. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont très engagés, puis ils sont visibles, on les voit, ils sont toujours volontaires, ils sont toujours là. D'autres qui le sont moins pour des raisons qui sont diverses. Ce qu'on essaye, nous, de faire, c'est vraiment de développer cet esprit de consommateur, c'est-à-dire qu'on vraiment s'engage. Alors, moi, j'ai envie de dire, quel que soit notre métier, on trouve toujours un petit moment, quelques instants, un moment de l'année pour filer un coup de main, pour participer d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on essaye de développer. On essaye de susciter cet intérêt en proposant des animations pendant les distributions. Il y a quelqu'un qui vient, dernièrement, on a une personne qui est venue pour faire un petit atelier sur le goût. Voilà. Bon, on essaye de créer du lien, finalement, entre les adhérents pour qu'on soit pas uniquement une alternative au mode de distribution habituel. On dit on vient, on paye, on prend, on s'en va, mais là c'est on vient, on discute, on apprend à connaître les autres consommateurs. Oui. On veut essayer aussi de créer du lien. Ça fait vraiment aussi partie de notre mission. C'est pas forcément une mission très simple, mais voilà, on essaye de dépenser un petit peu d'énergie pour arriver à ça.
Non, je comprends très bien. C'est bon et puis c'est convivial, quoi. C'est normal un peu qu'on a envie de savoir d'où ça vient ce produit, alors qu'on aime bien, on goûte, c'est super. Fais-moi rêver, s'il te plaît. Partenay de Bretagne, allez, j'imagine, l'église, le bourg, la pharmacie, la boulangère, ma copine, quoi.
Je vais te décevoir, il n'y a pas de pharmacie.
Oh, il n'y a pas de pharmacie, c'est beau, c'est parce qu'il n'y a pas de malade.
Non, c'est un tout petit village, même s'il a beaucoup grandi dans Rennes Métropole ces derniers temps. Je suis arrivé là, en fait, complètement par hasard, hein, en recherche de terre, parce qu'il faut savoir que le point faible, la grande difficulté pour les gars comme moi, il y en a beaucoup qui chercheraient à s'installer en agriculture bio et en vente directe. On a un gros souci, c'est l'accès au foncier. Aujourd'hui, sur la Bretagne en particulier, sur la France en général, il y a une très très forte pression foncière, comme on l'appelle, avec des contraintes économiques, avec une urbanisation d'abord. Hein, aujourd'hui, il y a quelques temps, on avait tous en tête le chiffre d'un département tous les 10 ans qui disparaissait en surface artificielle, comme on dit, hein, les routes, l'urbanisation. Aujourd'hui, c'est un département tous les 7 ans en moyenne. Donc faites le calcul, la surface agricole, elle est mangée très très rapidement. Sans forcément être anti-croissance des villes, il y a un équilibre sans doute à respecter. Je pense que là, on joue avec le feu, quoi. Hein. On joue avec notre souveraineté alimentaire à pas si long terme que ça. Hein. D'après Pierre Rabhi, on est sur des stocks alimentaires, même en Occident, en Europe, qui sont très limités, qui sont de l'ordre de 6 mois. Donc en cas de... Ce qui explique la flambée des prix dès qu'il y a un problème agricole, un problème climatique quelque part dans le monde... la première des souverainetés, c'est la souveraineté alimentaire, et il faut faire très attention à ça, il me semble, quoi. Donc on est arrivé à Partenay de Bretagne. J'ai même dû biaiser un petit peu, en fait, pour mon installation, c'est-à-dire que on a un autre souci, nous les paysans en herbe, c'est de le problème du logement, c'est-à-dire qu'autour des grandes villes, on a vu se développer ces dernières années une volonté de pas mal de gens d'acheter une propriété à la campagne, quoi. Et ces propriétés étaient souvent des anciennes fermes, en fait. ces gens-là ont souvent des moyens un peu plus que nous, et donc ça a fait monter, en fait, le prix des vieilles longères, comme on dit, hein, dans la campagne rennaise. Et par conséquent, quand parfois on arrive à trouver des terres, il y a plus de logement autour. Donc c'est un autre souci, parce que les paysans, ils ont besoin souvent d'être proches, notamment quand il y a des animaux. Et donc j'ai biaisé, c'est-à-dire qu'on a acheté une maison qui avait encore un petit peu de surface autour, 2 hectares, sans dire à la banque que c'était un projet agricole, sinon ils nous auraient renvoyé vers une banque agricole. Et la banque agricole m'aurait dit, mais avec 2 hectares, vous voulez faire du pain, c'est quoi? Ils m'auraient jamais suivi. Donc voilà, il m'a fallu 10 ans pour y arriver, mais en biaisant, on y est arrivé quand même. Et puis 2 ans après être installé, commencer à faire un petit peu de pain, commencer à me faire connaître, j'ai pu retrouver la location de 10 autres hectares, donc une autre parcelle pas très loin, ce qui me permet d'être autonome aujourd'hui dans la production de blé.
Eh bah, je suis, comment dirais-je, agréablement surprise de ta sincérité, hein, de m'avoir raconté toute ton histoire comme ça. Oui, mes auditeurs, ils vont être ravis, je suppose, j'espère pour eux. Mais par contre, tu m'as pas du tout fait rêver, là. Si tu vas me faire rêver maintenant, parce que je veux manger encore une tartine.
But I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I would rather stay at home with me, yeah. I don't got 70 days, 'cause there is nothing you can teach me that I cannot learn from Mistress Attaway. I don't got a lot in class, but I know it doesn't come in a shot glass. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know. I meant me go to rehab, but I won't go, go, go. The man said, why do you think you are here? I said, I got no idea. Am I gonna lose my baby? But me, she said, I think you are depressed. Kiss me, baby, and the rest. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I don't ever wanna drink again. Just, oh, need a friend. I'm gonna spend 10 weeks of everyone think I am on the mend. It's not just my pride, it's just till these tears have dried. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no.
Voilà, c'était la version de Jolly Boys de Rehab, donc la musique de Winehouse, hein, on la présente plus, celle-là non plus. Eh bien, les bailleurs sociaux de 35 appellent les locataires à voter pour leurs représentants au conseil d'administration. Les personnes qui seront élues vont donc représenter les intérêts des habitants des logements HLM durant 4 ans. Vous êtes concerné si vous habitez dans un logement social depuis plus de 6 semaines, si vous avez plus de 18 ans, que vous n'avez pas besoin d'avoir la carte d'électeur pour voter dans cette élection. Alors, j'ai reçu une personne ici qui nous a expliqué tout ça.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único e atravessou a rua.
Bon, ben voilà, sur l'air de la musique de Chico Buarque qui s'appelle Construction, je reçois Jean-Baptiste Voisin qui est le représentant à Guyon. Aiguillon.
Pour Aiguillon Construction.
Pour Aiguillon Construction, de l'association départementale Organisme Habitat 35. Donc, en fait, vous êtes plusieurs bailleurs sociaux et vous prenez le relais dans cette association départementale. Comment ça se passe exactement ?
Tout à fait. En fait, l'ensemble des bailleurs sociaux d'Ille-et-Vilaine, qui sont au nombre de 8, sont regroupés au sein d'une association qui s'appelle donc l'ADO Habitat Ille-et-Vilaine pour évoquer des questions qui concernent l'ensemble de ces bailleurs sur tous les territoires sur lesquels ils sont présents. Et la direction, en fait, tourne tous les deux ans d'un bailleur à l'autre. Et cette année et l'année dernière, on a eu la chance d'être en direction de l'ADO.
D'accord. Mais bon, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler véritablement des bailleurs et de leurs fonctions. Nous sommes là plus précisément parce que vous avez fait donc une réunion assez musclée pour essayer de motiver toutes les locataires des organismes HLM à venir voter aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration, justement pour qu'ils s'impliquent dans la vie de leur habitat, etc.
Tout à fait. Tous les 4 ans sont organisées en France les élections des locataires qui permettent en fait aux habitants, à tous les habitants, de s'exprimer et d'élire 3 ou 4 représentants d'associations de locataires dans les conseils d'administration de chacun des bailleurs. Donc c'est un vote qui se fait au niveau de chaque bailleur et donc chaque locataire est concerné par les élections pour son organisme.
D'accord, donc celle-là concerne, si j'ai bien compris, en Ille-et-Vilaine, l'élection de 28 personnes, qui sont donc réparties dans ces différents bailleurs.
Exactement.
Et c'est quand même un enjeu non négligeable, puisque le parc d'habitation sociale dans le département de 35 représente quand même 62% en Bretagne, c'est bien ça ?
56 000 logements au total. Et donc c'est 62% du parc breton, c'est l'Ille-et-Vilaine qui emporte et de loin le plus grand nombre d'habitants en Bretagne dans les habitations HLM.
Et en fait, ces personnes qui vont être élues, ce sont des personnes qui vont être concernées par le cadre de vie, l'amélioration de logements, la fixation des loyers, des charges, l'attribution de logements, ce qui n'est pas rien, hein, c'est quand même impliquant, ils sont vraiment à fond dans le boulot, c'est pas rien.
Effectivement, les représentants de ces différentes associations vont être présents dans les commissions d'attribution des logements, donc c'est l'instance au cours de laquelle on décide d'attribuer ou pas un logement à telle ou telle personne. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très en vue en ce moment. Ils seront aussi présents dans les conseils d'administration de chacune des sociétés, donc là où seront décidées les grandes orientations annuelles. Et puis il y a aussi le conseil de concertation locative qui rassemble l'ensemble des associations une fois par mois chez chaque bailleur et qui permet d'aborder effectivement tous les sujets importants, l'entretien des bâtiments, les loyers et le cadre de vie d'une façon générale.
Mais comme vous étiez en train de me raconter tout à l'heure, ces personnes qui se présentent et qui souhaitent devenir des porte-parole des habitants, ce sont des personnes véritablement très engagées et qui prennent très au sérieux leur travail.
Ah oui, tout à fait. C'est une élection qui est prise au sérieux par les associations d'habitants et qui doit l'être aussi par les habitants. Les personnes avec qui nous échangeons sont vraiment très mobilisées pour défendre l'ensemble des habitants.
D'accord. Et l'élection en elle-même, alors comment ça se passe ?
Alors l'élection en elle-même, les associations viennent se déclarer auprès de chacun des bailleurs avec une profession de foi qui permet d'exprimer leurs souhaits, j'allais dire leurs revendications, mais c'est pas tout à fait ça, de façon à établir un programme. C'est comme l'élection présidentielle, c'est un petit peu la même chose. Et ensuite, chaque organisme envoie donc ses professions de foi à l'ensemble de ses habitants pour qu'ils aient connaissance de chacun de ces programmes et ils ont un délai de 15 jours pour voter ensuite par internet ou bien par vote et bulletin secret.
Et ben voilà, c'est ça, c'est pour ça que nous avons invité Jean-Baptiste ici aujourd'hui, c'est parce que il y a cette nouveauté, c'est le vote par internet.
Tout à fait.
Et là, j'aimerais bien comprendre.
Eh bien, c'est très simple, les organismes HLM d'Ille-et-Vilaine ont voulu se mettre à la page et permettre aux habitants, qui sont aujourd'hui très majoritairement dotés d'internet, de voter très simplement depuis chez eux, sans avoir à respecter le formalisme comme précédemment par le vote à bulletin secret. Alors celui-ci est effectivement toujours possible, mais avec les codes reçus par courrier à la maison, ils peuvent aussi se connecter très facilement sur une plateforme internet et voter pour l'une des associations pour lesquelles ils ont reçu chez eux
le programme,
la profession de foi.
D'accord.
Et donc les dates varient selon les bailleurs et le dépouillement se fera du 28 novembre au 4 décembre selon les organismes. Mais dans tous les cas, dans les 15 jours qui précèdent cette élection, chacun recevra à son domicile le matériel de vote et toutes les informations dont je viens de parler.
D'accord, donc les personnes ils vont recevoir aussi bien un courrier leur permettant de renvoyer avec un enveloppé leur vote.
Exactement.
Ou alors un login pour faire sur internet.
Un login ou un mot de passe.
D'accord.
Complètement.
Ah, c'est formidable.
Oui,
ça.
Oui, c'est plutôt bien. On pourra voir quel a été l'impact effectivement du vote internet en proportion du total des votes.
Et tout ça dans une ambiance très sécurisée, je suppose, et confidentielle.
Bien sûr, c'est très confidentiel. Comme vous le rappeliez à l'instant, il y a effectivement un login, un mot de passe pour chacun des habitants qui est différent. Et il y a un décèlement très officiel d'une urne électronique en lien avec le prestataire. Voilà, tout cela est parfaitement sécurisé et les fichiers sont ensuite détruits. On ne les conserve pas.
Bon, ben voilà. Donc, vous avez bien entendu, il ne vous reste plus qu'à voter, puisque si vous êtes concerné par la location d'un logement social, il faut y aller. Ça concerne votre cadre de vie, ça concerne votre bien-être dans ce logement-là et ça concerne aussi le travail qu'ils vont faire toutes ces personnes qui vont être élues par le biais de ce vote, y compris électronique. C'est super. Merci bien, Jean-Baptiste.
Merci beaucoup.
E tropeçou no céu como se fosse bêbado. E flutuou no ar como se fosse pássaro. E se acabou no chão feito pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse o último. Beijou sua mulher, como se fosse a única. Cada filho ser como se fosse o pródigo e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. Acabou no chão feito pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo é descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames fingentes que a gente tem que cair. Pague pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. Pela paz derradeira que fim vai nos redimir.
Alors, Rennes Métropole et Rennes.fr invitent les internautes avertis, mais aussi les occasionnels, à donner leur avis pour aider à construire la future version de leur site internet. Super! Comment ça se passe? Il suffit de cliquer sur un lien proposé. J'ai essayé sur celui de Rennes Métropole. Pour répondre donc à un questionnaire, paraît-il que la manœuvre ne dure que quelques minutes. Mais pourquoi paraît-il? Eh bien, parce que j'ai pas pu participer et donner mon avis, bien que j'aurais bien envie de le faire, hein. Mais ça n'a pas marché hier. Un message d'erreur cause 103 est apparu. C'était donc déjà la fin de mon exercice, mais peut-être bien que depuis hier le problème a été résolu. Donc j'ai essayé également sur le site de RennesFR, mais je n'ai pas trouvé le lien pour participer à l'enquête sur la page d'accueil. Alors voilà, moi je n'ai pas répondu au questionnaire. C'est un peu dommage puisque c'était bien de pouvoir, en tant qu'usager de ce site, exprimer les points forts et faibles des informations et rubriques proposées. Peut-être allez-vous tenter avec plus de succès que moi. Je l'espère en tout cas. Eh bien, je reviens avec mes invités, Olivier et Rémi, qui sont là. Rémi Damapopote, Olivier qui est producteur de blé bio, du pain, du jus de pomme, toutes ces petites choses que nous sommes en train de goûter ici même à l'antenne. C'est super bon, quand on est là dans la musique, c'est pour ça que ça dure longtemps, parce que nous, on est en train de manger en fait. Hein, c'est super bon. Alors, je voulais savoir les gars, d'accord, AMAP, ok, AMAPopote, produits bio et tout, mais vous acheter quand même des produits au supermarché, non ? Ou pas du tout ?
Eh ben, moi, finalement, je fais l'expérience personnelle de moins en moins, puisque quand toutes les semaines, on récupère quelques kilos de légumes, un kilo de pain, son litre de jus de pomme et sa douzaine d'œufs, eh ben, on a déjà une certaine autonomie. Alors, ça suffit pas forcément, et si on complète avec quelques petits producteurs qu'on aime bien et qu'on a repérés sur le marché du coin, ça peut très bien faire l'affaire. Bon, je vais pas vous mentir, je vais quand même de temps en temps dans un supermarché, mais c'est plus du tout le rituel hebdomadaire comme ça pouvait l'être il y a quelques années, quand j'avais pas encore cette démarche très, très investie de consommateur, si je puis dire.
Ben, et le dentifrice
Oui, alors maintenant aussi, quand on va dans un supermarché, on peut choisir les produits. On trouve du dentifrice bio au supermarché.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Olivier?
Eh ben, j'ai envie de vous répondre par une petite boutade que citait un conseiller agricole. Un agriculteur qui rentre dans un supermarché, c'est un crocodile qui rentre dans une maroquinerie. Alors, en faisant un petit effort, on arrive à s'en passer. Et grâce notamment au réseau des biocoop, quoi, où on trouve les produits non alimentaires de plus en plus produits de manière équitable, socialement équitable aussi. Et effectivement, si on pouvait encore y aller il y a quelques temps pour du dentifrice, du papier de toilette, aujourd'hui on trouve tout, vraiment tout, dans les réseaux des biocoop. Donc en fait, il y a très très longtemps que j'ai pas mis les pieds, et j'avoue que ça m'affole assez quand j'y rentre.
Ah bon, ça se défend, hein. Si on n'a pas besoin. Eh bien, les garçons, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Bon, nous avons une invitée qui est venue. Je ne vais pas la dévoiler tout de suite parce qu'elle va participer juste après le morceau de chanson. Elle va être avec nous et très explicite puisqu'elle est là parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la philosophie. Et moi, je voudrais savoir, Rémi et Olivier, est-ce qu'il faut une philosophie pour la consommation des produits bio? Et ouais.
C'est une très bonne question. Est-ce qu'il faut une philosophie? Moi, je crois que c'est un choix. C'est un choix de qui appartient à chacun de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre dans son assiette et finalement qu'est-ce qu'on veut manger. C'est peut-être le geste le plus important qu'on peut faire dans la journée, qui peut conditionner un certain nombre de choses, notamment sur le plan physique. De la philosophie, je sais pas. Olivier, peut-être.
Dans philosophie, il y a Sophia qui est la sagesse, normalement. Moi, c'est vrai que je suis arrivé à l'agriculture bio, l'agriculture biodynamique, après pas mal d'années, du fait de pas avoir trouvé les terres plus tôt. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion un petit peu sur la place de l'homme dans la nature. Est-ce que l'homme est complètement extraterrestre? Est-ce qu'il peut se passer de lien avec la nature? Quand on partage des produits alimentaires, on s'en rend vite compte que non. Mais à travers ça, il y a peut-être une autre position de l'homme à regarder au cœur, au centre de la nature. Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est au-dessus des animaux? Est-ce qu'on est au-dessus des petits animaux, des plantes? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas plutôt des êtres comme nous avec qui on peut tendre vers une certaine évolution? Donc, si... qu'est-ce qu'on entend par philosophie? Je ne saurais pas vous le dire ce matin. Mais généralement, derrière ces modes de consommation alternative, il y a énormément de réflexions, en fait, qui aboutissent actuellement dans des actes précis dans le monde physique, qu'on voit dans énormément de domaines.
Très bien. Maintenant que vous avez répondu à ma question, je vais pouvoir vous dévoiler le troisième élément. Eh bien, il s'agit de Nathalie Monin, professeure de philosophie et aussi donc qui fait partie de la Société Bretonne de Philosophie. Elle est là parce que donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la philosophie et nous allons parler philosophie juste après. Mais je pense qu'il faut commencer. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Tu as envie de goûter le jus de pomme d'Olivier?
Avec plaisir.
Ah, super.
Je pense avec impatience.
Oh, génial. Alors, on va laisser Nathalie goûter le jus de pomme et on revient dans un instant.
You look good, baby. Hey, Frankie! But don't go over that thing you looking too good. You look at me, I look at you. From your green eyes to your dirty shoes, I wanna know ya, what's in your head? You just dancing over there like without a care. You're looking good, you know you do. Your whole crew got that old attitude. But it's okay, baby, you deserve it. You're some Molly Ringwald, you can work it. Hey, hey you, I really wanna know ya. Hey you, I really wanna know ya. My name is John, I'm a bad man. From my crooked hand on the way to my van. Let me talk to you, whisper in your ear.
tell you little secrets that you ain't supposed to hear. You're moving like a tornado in Kansas. You're killing this place, I can't handle it. Let me take you out, paint the town red. If I can't have you, baby, I'ma end up dead. Busters allowed. Scarecrows! Yeah, yeah. Calm down. Do me a favor.
Just shake your little head like a little bitty girl. Just shake your little head like a little bitty girl. Just shake your little head like a little bitty girl. Just shake your little head like a little bitty girl.
Hawthorne, California.
C'était Pigeon John avec Ray You dans la programmation cette année des Transmusicales. C'est pour bientôt, hein, on arrive. Alors, c'est la journée mondiale de la philosophie. Eh bien, pour préparer rapidement l'intervention de Nathalie, j'ai préparé plusieurs choses, plusieurs questions sur des sujets qui sont très actuels. On va commencer par exemple, Nathalie, pour parler du côté du bien-être, la recherche du bonheur. Tout ça est un peu associé à tort ou à raison à une certaine philosophie de vie. Comment un professeur de philosophie peut expliquer ça?
Alors, je ne sais pas si j'emploierais le mot philosophie de vie ou bien plutôt conception, une certaine conception de la vie, mais une conception issue de l'expérience. La philosophie, c'est quand même d'abord une pensée. C'est une pensée rationnelle, conceptuelle. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience derrière. Hein. L'expérience est aussi pensée, mais c'est la pensée en plus de l'expérience. Un certain type de réflexion systématique à partir de l'expérience. C'est pour ça que, sur la question que vous posiez, est-ce qu'il y a une philosophie de la vie, du bien-être, etc., c'est une conception que chacun peut avoir. Et que chacun a, de toute façon, parce que chacun décide de comment il veut vivre, comment il veut se rapporter au monde. Enfin, il y a assez d'interrogations dans tous les médias aujourd'hui pour que chacun se pose la question de savoir, et moi, comment j'ai envie de manger, et qu'est-ce que j'ai envie de manger exactement. Alors, j'ai bien aimé la réponse...
D'Olivier,
parce que mais qui est une réponse qui finalement qui nous renvoie à la philosophie des Grecs. C'est vrai que Sophia, ça veut dire la sagesse, ça veut dire la science, ça veut dire le savoir. C'était l'idée qu'il fallait passer par une certaine connaissance, un savoir du monde, de ce qu'était le monde, pour comprendre notre place dans la nature. Donc l'idée, c'est que nous sommes partie de la nature, nous faisons partie de la nature, nous subissons ses lois, et donc nous avons à composer avec. Ce n'est plus du tout la pensée à partir du XVIIe siècle. Bon, c'est la fameuse phrase de Descartes qui dit « Nous serons comme maîtres et possesseurs de la nature », ce qui change totalement le rapport de l'homme à la nature. Et on est en train... Alors, on a utilisé la nature, on s'en est servi, et puis on en a plus qu'abusé, puisque aujourd'hui, précisément, ben on revient peut-être à ce sens grec du rapport au monde, et on est bien obligé de prendre en compte et de faire avec la nature. Donc, si vous voulez, c'est pas avoir une philosophie de vie, c'est pas le penser de manière très compliquée que de se dire il va bien falloir faire attention à la manière dont j'utilise la nature, la manière dont notre société utilise la nature. Finalement, ça, c'est un constat empirique. Hein. Vu la pollution qu'il y a aujourd'hui, il va bien falloir changer de manière de vivre. Donc, c'est pas d'abord l'objet de la philosophie. Mais la philosophie peut prendre en compte cette dimension-là du rapport de l'homme et comprendre pourquoi l'homme occidental a changé ce rapport au monde et a pris le dessus sur le monde et a cessé de vivre finalement en harmonie avec le monde. Ça, c'est une question philosophique.
D'accord. Alors, toujours sur cette façon d'exprimer par une phrase vulgarisée la philosophie de vie, est-ce qu'un philosophe peut considérer qu'on est libre lorsqu'on appelle, qu'on dit qu'on a une philosophie de vie? C'est-à-dire qu'on a peut-être un chemin bien précis à parcourir, une façon de vivre, non?
Probablement qu'on est tous toujours déjà libres. Mais probablement aussi qu'on n'utilise pas, qu'on ne sait pas utiliser cette liberté. Et que la plupart du temps, chacun d'entre nous vit dans des conditionnements. Bah, par exemple, ma génération ou celle de mes parents, on était conditionnés à aller au supermarché, à pas pouvoir se passer du supermarché, etc. C'est en train de se modifier.
Mmh.
Donc la liberté, c'est la rupture avec ce conditionnement. Donc tout le monde est capable de faire cette rupture. Et voilà, la liberté, c'est quelque chose qui va s'acquérir, qui peut s'acquérir par la pensée, donc c'est le résultat d'une philosophie, ou qui s'acquiert par un ras-le-bol, par une sorte de révolte. Il y en a marre de vivre de cette manière-là, il y en a marre d'être conditionné, d'être aliéné par tout un tas d'aliénations autour de nous, le téléphone portable, les jeux là, sur les Game Boy, etc. Voilà. Donc se libérer de tout ça, voilà, c'est le chemin que chacun peut faire. La philosophie n'est pas prédominante, et heureusement, on peut vivre sans philosopher. Donc, c'est quelque chose de plus précis que ça, la philosophie. Mais je pense qu'on en viendra à essayer de la définir.
D'accord. Je fais tout à fait confiance à Nathalie, bien sûr, pour ça. Alors, autrement, je voulais aborder un autre sujet qui est toujours philosophique, hein, bien sûr. J'ai lu dans un article de journal la semaine dernière qui est désormais... la philosophie, la démarche philosophique va être aussi proposée dans les maternelles, non pas comme, comme faisant partie d'un programme scolaire basé sur l'histoire, mais comme un exercice de réflexion, une prise de conscience au plus tôt possible, afin de permettre aux enfants d'analyser les situations liées aux questions existentielles, genre l'amour, la guerre, l'amitié, le goût des autres. Mais que certaines personnes, donc des adultes qui apprennent ça, sont sceptiques par rapport à cette initiation philosophique chez les enfants, notamment au maternel, parce qu'ils considèrent que l'enfant a besoin d'abord d'apprendre, d'encaisser un tas de choses, d'avoir un certain bagage, avant de commencer à faire le tri des idées et analyser. Alors, je voudrais savoir, est-ce que la philosophie, c'est pour tous les âges ?
Alors, j'ai envie de dire, laissons donc le temps au temps. Laissons les enfants apprendre, jouer avec le langage, parce que à 4-5 ans, on aime poser des questions, et on aime poser n'importe quelle question. Donc, c'est plutôt le plaisir de la parole, de s'entendre parler, de poser des questions, de faire... voilà. Donc, laissons cette joie, simplement des mots, de jouer avec les mots, de poser des questions, sans forcément vouloir absolument cadrer. Qu'on puisse susciter une interrogation, on ne va pas la susciter, parce qu'à 4-5 ans, naturellement, les enfants posent tout un tas de questions, à la fois par amour de poser des questions, et en même temps, parce que ils commencent à découvrir le monde et que c'est quelque chose de très très étonnant. J'ai envie de dire que c'est plutôt notre société après qui étouffe ce questionnement. Donc s'il y avait un travail à faire, c'est plutôt de laisser surgir les questions, c'est-à-dire laisser à l'enfance le soin de rester un enfant et de continuer de s'émerveiller du monde. Et puis après, la réflexion arrivera sous quelque forme que ce soit. Ça peut être une réflexion philosophique, mais ça peut aussi être une réflexion scientifique. Ça peut être une réflexion écologique. Enfin, ça peut être toutes sortes. Voilà. Donc, vouloir absolument... Vous voyez, on veut faire des semaines du goût dans les maternelles. On veut faire les bébés nageurs. J'ai l'impression qu'il y a une accélération. On veut tout leur faire en moins de 10 ans, finalement. Et je me demande si c'est une bonne chose ou si c'est pas à nouveau une déformation de notre temps, de vouloir techniciser, de vouloir accélérer quoi finalement, pour faire quoi, pour qu'ils fassent de la philosophie à 14 ans à la place de, ou alors pour les dégoûter définitivement. Non, je laisserai plutôt voilà, s'il faut repenser le rapport de l'homme au monde, eh bien dans ce rapport, s'il doit être un rapport, on va dire spontané, naturel, eh ben laissons l'enfant vivre son enfance de manière naïve et spontanée. C'est pas forcément une bonne chose, hein, la réflexion et la lucidité. Si c'est pour apprendre à l'enfant qu'un jour il va mourir, je ne sais pas si c'est... D'abord, il le sait quand ses animaux, quand ses proches meurent, donc il est bien capable de faire cette réflexion. Que ce soit objet d'inquiétude et qu'un adulte soit là pour prendre en compte cette inquiétude et pour la prendre en charge, pour essayer d'apporter des réponses. Bon, il n'y en a pas, mais voilà. Disons que vouloir absolument désangoisser de tout, c'est pas forcément une aide à l'enfant, parce que de toute façon, notre vie, la vie, c'est un peu angoissant. Donc oui, c'est pas réjouissant.
Oui, non, mais non, mais c'est si joliment dit que j'ose avoir envie de d'être d'accord avec avec toi. Hein. C'est un peu le cas peut-être de mes autres invités. Je ne sais pas. Vous voulez réagir rapidement sur ces questions avant qu'on passe sur quelque chose de très local, parce qu'on va parler de la philosophie à Rennes.
Moi, ça m'a fait plaisir ce langage sur le temps au temps, parce que. Ça rejoint un petit peu mes visions des choses, ouais. L'enfance, les rythmes naturels, les rythmes solaires, les rythmes lunaires. Un enfant de 7 ans, c'est pas le même qu'un enfant de 14 ans ou qu'un adulte de 21 ans. On va très très vite. Vers quoi ? Faudrait peut-être effectivement prendre le temps de s'arrêter, regarder vers quoi on va. Comme disait l'autre qui tombait du 18e étage au 14e, il dit jusqu'ici tout va bien, quoi.
Oui. Ne vous réveillez pas trop vite, hein, les auditeurs. Vous voyez bien, on peut prendre notre temps, hein. C'est clair. Et toi, Rémi, tu as envie de dire un petit mot là-dessus ?
Sur la philosophie, oui. Bah, moi, je trouve que ce qu'on vient d'entendre, c'est intéressant. On est, si on peut juste faire un petit rapprochement avec ce qu'on essaye de construire, nous, à notre échelle, très pratico-pratique, puisque finalement, on parle d'acheter la nourriture et de se nourrir différemment. C'est d'essayer de prendre un certain... comment dire, un peu de retrait par rapport à ce qu'on fait, à la façon dont on vit quotidiennement, et de voir comment on peut... mettre ça en adéquation avec nos convictions. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la philosophie, mais voilà, c'est la sagesse à n'importe quel niveau, même à ce niveau-là, est possible.
Nathalie, on peut appeler ça de philosophie ?
Bah, dans la mesure où c'est un choix individuel, la philosophie ne juge pas comment on doit vivre. La philosophie ne délivre pas de message. Le philosophe ne juge pas. Il a le respect profond de la liberté. Et donc, c'est pour ça que j'hésiterais à parler d'une philosophie de la vie, parce que ça me paraît un peu dictatorial. Mmh. Si la philosophie peut apporter quelque chose, aider à se libérer des conditionnements et des aliénations, c'est pour se respecter elle-même, donc respecter la liberté. Donc, c'est un choix individuel. Alors, après, on peut souhaiter que ça s'étende et que ça se répande dans toute la société. Donc, oui, mais voilà, ça reste un choix individuel de chacun, oui.
Nathalie, je suis tentée de connaître un petit peu comment ça se passe à Rennes. Est-ce que les Rennais aiment la philosophie ?
Apparemment, oui.
Ah.
Alors, parce que depuis janvier 2010, donc, la Société Bretonne de Philosophie a mis en place des ateliers populaires de philosophie. Alors, on a longtemps cherché avec Denis Kermen, qui est président de l'association, et puis Patricia Limido-Eulot, qui est notre trésorière, comment on pouvait appeler ces ateliers, enfin, avant qu'ils s'appellent ateliers. Et on s'est dit, on ne veut pas que ce soit des conférences, on ne veut pas que ce soit des cours, parce que nous, on a affaire à des adultes qui viennent chacun avec leur culture, leurs questions, et peut-être leurs peurs ou leurs angoisses. Et donc, on part de quelque chose qui est déjà là. Si vous voulez, autant les professeurs de philosophie en terminale donc, essayent d'instruire, bon, il y a un examen en plus, donc c'est un peu, effectivement, plus magistral que ça, autant nous, on est délivrés, justement, de toute nécessité de concours, d'examen, etc., ce qui nous donne une grande liberté. Et donc, dans la notion d'atelier, il y a la notion de faire surgir la pensée, de laisser le temps à la parole, de se déplier, de se développer, et donc de ne pas souscrire à la rapidité de notre temps qui voudrait que en 30 secondes, on ait une réponse à ceci, on ait une réponse à cela. C'est pour ça qu'on fait des cycles. D'abord, on a plusieurs intervenants. Chaque intervenant traite la question qui lui importe à lui, sur laquelle il s'y connaît un peu, il est un peu spécialiste, ce qui évite une parole unique. On pourrait dire, on évite de gourouiser, si vous voulez, la philosophie, parce que justement, la philosophie, c'est aussi la pluralité des pensées. C'est la possibilité de penser aussi à plusieurs. Donc, c'était ça le choix, de faire plusieurs intervenants. Et chaque intervenant, on peut pas un seul ne peut pas tout connaître sur tout. Il faut quand même du temps pour travailler, pour méditer, pour réfléchir, et puis ensuite pour pouvoir faire passer le savoir. Donc voilà la nécessité pour nous d'en passer par plusieurs intervenants, chacun étant donc plus spécialiste de sa question.
D'accord. Comment on fait si on a envie de venir participer aux ateliers de la Société Bretonne de Philosophie ?
Eh bien, on vient. On pousse la porte et on s'assoit. C'est entièrement gratuit. Nous faisons ça dans l'esprit des Lumières, le progrès pour tous, républicain. Et donc, c'est accessible. C'est ce qu'on demande à nos intervenants, que ce soit accessible à tout le monde. Pas de vocabulaire technique, on n'est pas entre universitaires. On doit pouvoir s'adresser à tout le monde. On a quelques-uns de nos auditeurs qui nous ont dit c'est dans un lycée. Moi, je garde pas un bon souvenir du lycée. C'était pas facile pour moi de faire la démarche de revenir au lycée, finalement. Donc, je garde pas un bon souvenir. Alors, le problème, c'est qu'on... Madame la proviseure du lycée Zola a très généreusement mis à disposition gratuitement l'auditorium de Zola, ce qui fait que nous n'avons quasiment pas de subvention, on n'a pas de ressources propres, donc ça permettait cette gratuité. Voilà la raison du lieu. Bon, et puis en plus, c'est vrai que Émile Zola, c'est central, et puis le personnage d'Émile Zola va bien avec l'idée d'atelier populaire.
D'accord. Voilà. Et ça se passe quand, en fait ?
Alors, tous les lundis, hors période scolaire, tous les lundis de 18h à 20h.
D'accord.
Dans l'auditorium, c'est donc avenue Janvier, mm-hmm. pas très loin de la gare. Et donc à 18h, à 6h moins 5, voilà, c'est ouvert en général un petit quart d'heure avant, et on peut entrer dans la salle et s'asseoir.
Ok, donc par ailleurs, vous faites aussi des manifestations un peu partout, je suppose, dans la ville, peut-être dans le département et même en Bretagne.
Alors, pas encore.
Ah, si, je connais une manifestation qui vous animez, vous co-animez avec les Champs Libres tous les ans. Hein.
Alors, oui.
Depuis un certain temps, vous allez m'expliquer ça. Ça dure 3 jours et je veux surtout parler de ça parce que, eh bien, ça se passe au printemps. Hein. Ça va se passer la fin mars. Alors, 2011.
24, 25 et 26 mars.
Et là, génial la thématique. C'est de l'amour. On va parler de l'amour. Alors, expliquez-moi votre partenariat Champs Libres, depuis quand ça existe. Et qu'est-ce que vous allez dire à propos de l'amour ?
Alors, le partenariat existe depuis quelques années déjà. C'est l'ancien président Jérôme Poré qui avait initié ce partenariat avec les Champs Libres. Donc ça dure du jeudi soir 20h30 jusqu'au samedi. C'est 3 journées de réflexion. On change le thème tous les ans. Donc cette année, c'est l'amour. On recevra donc à 20h30 le jeudi 24 mars Jean-Michel Salansky qui va problématiser et essayer de nous expliquer que l'amour n'est pas la combinaison d'une amitié plus d'un rapport sexuel. C'est tout à fait autre chose. Donc il va essayer de problématiser ce qui se passe autour de l'amour et comment on peut le définir. Le problème de la philosophie, c'est un problème de définition. Mmh. Il faut savoir ne pas confondre l'amitié et l'amour, par exemple, les différences qu'il y a entre les deux. Le vendredi, on va recevoir un médiéviste, Denis Hu, qui est professeur à Rennes 2, et qui va dialoguer avec un psychanalyste qui s'appelle Philippe Carpentier. Donc ça, ce sera à 15h30 jusque vers 18h. Et ils vont parler donc à partir de l'amour courtois, puisque donc Philippe Carpentier m'a appris que Lacan avait traité de l'amour courtois. Alors pour essayer de voir notre manière peut-être de nous comporter entre hommes et femmes, prend ses origines vers le XIIe siècle. Alors Denis Hu nous éclairera sur cette histoire de l'amour courtois. Et puis peut-être on pourra voir avec Philippe Carpentier si les structures psychologiques qui étaient en place à ce moment-là ont évolué, sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui de l'histoire de l'amour courtois ? Et puis on terminera le samedi, donc 26 mars, à 15h, avec André Comte-Sponville, qui fera, alors lui, il a un CD sur l'amour, donc il fera une sorte de conclusion magistrale, à mon avis, un bilan qui permettra de mettre en regard les diverses dimensions de l'amour.
Bon, Nathalie, l'amour, on a besoin un peu, beaucoup, ou à la folie ?
À la folie ? Qu'est-ce que ce serait qu'une vie sans amour ? Enfin, on se porte jamais mieux que quand on est amoureux et quand on est aimé. Hein. Parce que c'est ça le drame de l'amour, c'est qu'on peut aimer et pas être aimé. Et c'est pas forcément réciproque. J'ai l'impression que le jour où on tombe sur quelqu'un et où ça peut être réciproque, c'est une sacrée chance. Hein. Un bonheur, je crois, on dirait. Une sacrée chance.
Wow.
Et ça décuple notre rapport au présent, peut-être. Peut-être que l'amour, c'est ce qui nous permet de vivre le présent totalement. Vous savez, c'est Pascal qui dit « Nous ne nous tenons jamais au temps présent. » On est soit dans le passé, soit dans le futur, parce que le présent nous ennuie, finalement. Et donc, les seuls moments de notre vie où nous ne nous ennuyons pas dans le présent, c'est quand on est amoureux.
Formidable. C'est tellement beau. On a envie de rester pendant des heures. Mes auditeurs, vous savez qu'on a déjà débordé, mais largement assez, que le studio est pris derrière moi. Il va vraiment falloir qu'on se dépêche. Mais j'ai quand même envie de demander à Nathalie de laisser un message tout particulier pour vous, les auditeurs, en cette journée mondiale de la philosophie. Dis-moi un truc. Quel message on peut laisser à toutes ces personnes qui nous entendent là?
Alors, je me permettrai pas de laisser un message.
Ah, c'est vrai, la philosophie, c'est pas de message.
Mais j'encouragerai chacun, dans la suite des Lumières, à penser par soi-même, à penser par soi-même, à faire cette rupture avec le monde ambiant, à faire confiance à sa propre raison. Et c'est Kant qui disait « sapere aude », ose sentir. Sapere, c'est le goût de la pensée. Ose penser, sentir le goût de la pensée par toi-même, et puis finalement penser par toi-même. Voilà, c'est pas un message, c'est une indication. Il y a une joie à penser, à savoir penser. Et puis il y a une deuxième citation que j'aime beaucoup, c'est celle de Camus qui dit « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et c'est l'exercice de la philosophie de bien distinguer, par exemple, l'amour, l'amitié, le bien, le mal, ça c'est quand même fondamental. Donc voilà, de préciser les mots pour que les mots ne soient pas galvaudés. Comme par exemple, on l'a vu au début de l'émission, le mot philosophie est éminemment galvaudé aujourd'hui. Donc remettre les choses à leur place.
Eh bien, c'était un petit peu le mot de la fin, mais pas tout à fait. Déjà, je vais dire au revoir à tous mes invités et vraiment les remercier de leur présence. C'était tellement chouette de passer ce moment avec vous. Nathalie, merci beaucoup, tu reviendras.
Ah bah, avec plaisir.
Oh, super. T'as aimé le jeu de pommes?
Oui. Excellent.
Oui, alors dis-moi, Olivier, merci beaucoup.
Merci à toi.
J'ai vraiment un super petit déjeuner là. Merci. Rémi, comment on fait pour devenir Amapien?
Alors, pour devenir Amapien, en tout cas chez Amapopote, il vous suffit de venir le mardi soir lors de nos permanences. Ça se passe au Cercle Paul Bert, rue Rapatel, entre 18h30 et 19h30. Je vous invite à venir si vous êtes intéressé pour voir un petit peu les produits qu'on distribue, faire connaissance avec les producteurs et pourquoi pas vous inscrire et devenir adhérent.
Super. Bon, je tape la bise à mes invités et je reviens dans deux petites secondes pour faire l'agenda du week-end. Et on y va pour un bout de l'agenda de week-end. Mais on commence dès ce soir pour la Journée mondiale de la philosophie, une rencontre avec Dominique Paquet, philosophe et animatrice du Café Philo au Champ Libre ce soir. C'est à partir de 18h30 sur le thème « Qu'est-ce qui est absolument interdit ?» Toujours à Rennes ce soir à 20h30 au Centre Rennais d'information pour le développement et la solidarité entre les peuples au 41 avenue Janvier, la projection du film de 26 minutes « Je mange, donc je suis » va être suivie d'un débat sur l'alimentation et l'agriculture de demain. Un stage de fabrication de meubles en carton, samedi et dimanche, à partir de 9h30 et jusqu'à 17h, proposé par l'asso 3 Maisons, se passe à la maison Marion de Fouet, à Clonay. Vendredi à 20h et samedi à 18h, dans la salle de la Cité, le jour de la dernière goutte, Monsieur Pipi est une pièce pleine d'humour qui mêle rire et la gravité de la situation. C'est un one-man show mené par Nicolas Ragout de la compagnie Le Chariot. Pour les adultes, c'est 10€ si vous voulez rigoler et pour vos enfants, 4€. Depuis mardi et jusqu'au 18 décembre, vous pouvez visiter l'exposition qui dévoile le projet d'architecture du futur centre de congrès de Rennes Métropole. Ça se passe à l'intérieur même du couvent des Jacobins, le couvent qui va ensuite fermer ses portes jusqu'en 2016 pour un lifting de taille. Des visites guidées sont proposées. Pour les inscriptions, il faut s'adresser à l'office de tourisme. Et les horaires d'ouverture, c'est de lundi au samedi de 13h à 18h. C'est C'était l'émission Wake Up Call, votre matinale. Je vais revenir très très bientôt. En attendant, je vous souhaite vraiment de passer un super week-end. Vous allez me manquer. Je vous fais des bisous. À plus.